Bonjour Thomas Ménager.
Bonjour Frédéric Rivière.
La commission mixte paritaire sur le projet de réforme des retraites s'est mise d'accord hier sur une version du texte qui sera présentée ce matin au Sénat et cet après-midi à l'Assemblée nationale. Vous étiez l'un des 14 membres de cette commission composée de 7 sénateurs et 7 députés. Comment les discussions sur le ton, sur la forme se sont-elles passées ?
Elles se sont globalement bien passées puisqu'au final il y avait déjà eu un accord au préalable entre les Républicains et le gouvernement sur un texte néfaste pour les Français, sur le texte qui au final est celui initial, celui qui nous a été proposé il y a quelques semaines et qui donc va demander aux Français de travailler 2 ans de plus. Il n'y a pas eu de nouveauté réelle dans ce texte et c'est la raison pour laquelle l'heure de vérité, ce n'était pas en tant que telle cette commission mixte paritaire qui était déjà jouée d'avance du fait des négociations entre les Républicains et le gouvernement, mais cet après-midi, lors du vote, et nous espérons qu'il y aura une majorité de rejet.
Vous avez eu le sentiment que les élus LR étaient en quelque sorte, les Républicains, donc étaient en quelque sorte les patrons de cette commission mixte paritaire ?
Ah non, pas du tout. Ils étaient main dans la main avec le gouvernement, soumis au gouvernement, mais ils n'ont obtenu aucune réelle avancée.
Mais ils ont obtenu de nouvelles choses hier.
Mais quasiment rien, des miettes de façade, des façades pour essayer de justifier au final le vote. Ça ne changera rien, les Français vont devoir toujours travailler. Et il y a des mensonges. Quand on dit aujourd'hui qu'ils ont obtenu les 43 annuités maximum, c'est un mensonge. Il y aura toujours des Français dans les carrières longues qui vont devoir travailler jusqu'à 44 annuités, puisqu'il y a d'autres conditions cumulatives à obtenir, notamment d'obtenir 4 ou 5 trimestres avant l'âge de la borne. Donc c'est un mensonge. Aujourd'hui, ce texte n'a absolument pas changé. C'est la raison pour laquelle il n'est pas un texte de justice sociale et que nous allons tout faire cet après-midi pour le rejeter, et même à l'avenir lors d'une saisine du Conseil constitutionnel si jamais il était adopté.
Vous représentiez donc l'opposition à cette réforme dans cette commission mixte. Il y en avait d'autres, notamment Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez eu l'impression que vos arguments ou les siens ont été au moins écoutés avec attention, voire respect?
Alors, pour une fois, à la différence des échanges qu'on a pu avoir avec le gouvernement, notamment avec Olivier Dussopt qui ne répondait à aucune question, le rapporteur Savary, qui était du Sénat, a répondu à un certain nombre d'interrogations. Moi, je l'ai interrogé sur la question des décotes et de la baisse du nombre de surcotes, c'est-à-dire de la baisse des pensions, puisqu'on nous explique depuis des mois que cela permettra de maintenir les pensions. Au final, il m'a confirmé hier, en commission mixte paritaire, c'est la première fois que nous avions raison, que Marine Le Pen, qui l'avait dit dès la présidentielle, cette réforme va au final mécaniquement faire baisser les pensions des retraités.
Le texte va donc être examiné ce matin au Sénat, où il devrait être adopté sans problème, et cet après-midi à l'Assemblée nationale, où ça sera sans doute une autre affaire. Croyez-vous que le gouvernement va tenter de faire adopter la réforme par un vote ?
Il semblerait qu'il souhaite un vote. Nous le demandons depuis le début. On ne pourrait pas avoir un texte aussi important pour les Français qui n'était ni voté en première lecture du fait de l'obstruction de l'extrême gauche, de la gauche, de la NUPES qui nous a empêchés d'aller au vote, ni au retour de la commission mixte paritaire. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a un vote, la possibilité de rejeter ce texte.
Ouais. Mais quel est le scénario qui vous paraît le plus probable aujourd'hui ? C'est que le texte sera voté.
Alors, c'est qu'on procédera au vote, vraisemblablement, oui, le président l'a dit, Elisabeth Borne l'a dit. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait les comptes, on considère que l'on peut obtenir une majorité contre ce texte, mais qu'il y a depuis hier des manœuvres, des tentatives d'achat de voix, des appels de ministres à des députés des Républicains.
D'achat de voix, c'est-à-dire ?
Mais on les appelle en leur disant est-ce que tu as un dossier sur ton territoire ? Est-ce que ton hôpital a prévu de fermer ? Est-ce que on pourrait peut-être pas rénover ton commissariat ? On est dans une sorte de république bananière où il y a de la corruption de voix. C'est-à-dire qu'on sait que ça va jouer à 4, 5, 6 voix, peut-être 10 voix. Et donc chaque voix, quand bien même ce ne serait pas des voix pour, mais ils achètent des abstentions. Ils achètent des députés, des Républicains qui vont sûrement faire le choix au final, après avoir dit que cette réforme était injuste, de se dire « je vais m'abstenir ».
Le président de la République qui a réuni hier soir les ministres concernés par cette réforme aurait fait planer la menace d'une dissolution en cas de vote négatif. C'est un scénario auquel vous croyez ?
Ce qui est certain, c'est que si cette dissolution fait suite à l'échec du projet, moi je suis très heureux de repartir en campagne et je n'ai absolument pas peur de retourner devant nos électeurs. Si nous arrivons à faire échec à ce texte et que c'est la condition du président qui décide au final, puisque ça serait un revers incroyable pour lui, de dissoudre. Nous, au Rassemblement national, nous avons toujours dit chiche. Nous sommes prêts à retourner devant les électeurs. Nous ne sommes pas là pour conserver une charge, un mandat. On n'est pas là pour nous. On est là pour l'intérêt général. On a eu mandat pour mettre en échec le gouvernement, mettre en échec cette réforme des retraites. Donc nous retournons devant les Français. Et nous sommes certains aussi que nous aurions une majorité peut-être pas forcément large au sein de l'Assemblée nationale, mais nous aurons un groupe, dans tous les cas, plus important au vu de l'ensemble des études d'opinion actuelles.
Et vous pensez que d'autres groupes d'opposition envisagent une dissolution avec plus d'inquiétude que vous ?
Oui, et on le sait, il y a dans un premier temps une tentative d'achat de voix, comme je vous le disais, mais il y a aussi une tentative de pression sur les Républicains, sur certains qui ont réussi à se faire élire tant bien que mal avec un parti qui aujourd'hui est en forte difficulté, un parti qui représente 4%, et que certains ont très très peur de retourner devant les électeurs et souhaitent conserver le plus longtemps possible leur mandat. Et cette pression de la dissolution, elle est faite sur un certain nombre de membres de la majorité, parce qu'il y a des membres aussi de la majorité, des macronistes qui ont dit que cette réforme était injuste, qu'elle n'était pas justifiée, qu'elle allait faire peser un poids important sur les femmes, notamment sur ceux qui ont commencé les plus tôt. Donc il y a une tentative de pression globale sur l'ensemble des membres du Parlement avec cette menace de dissolution. Mais nous, ça ne marche absolument pas au Rassemblement national.
Il y a eu beaucoup moins de monde hier dans les rues pour la 8e journée de mobilisation qui avait été choisie précisément le jour de cette commission mixte paritaire. Est-ce que vous avez le sentiment que les syndicats ont perdu le rapport de force ?
Je pense pas. Après, aujourd'hui, les syndicats, depuis le début, nous avons dénoncé l'escroquerie, le sentiment que ce sont des tartuffes. Ils ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Ils auraient pu s'abstenir si même ils ne voulaient pas voter pour Marine Le Pen, qui, elle, proposait pourtant une réforme des retraites, une réforme juste, notamment pour ceux qui ont commencé le plus tôt, notamment ceux qui travaillent le plus dur. Donc, après qu'il y ait un essoufflement, automatiquement, au bout d'un moment, c'est aussi logique. On ne peut pas se mettre en grève tout le temps. Les Français subissent une inflation alimentaire, une inflation énergétique.
L'inflation, elle a plombé, vous pensez, le mouvement social ?
Mais bien entendu, quand vous arrivez déjà plus à manger à la fin du mois, à boucler les fins de mois, à acheter de la viande pour vos enfants, à faire votre plein, que vous êtes obligé d'essayer de serrer partout, quand on voit les prix dans les magasins aujourd'hui, les gens, ils ne peuvent pas se permettre de perdre des journées de travail de manière aussi importante que peut-être par le passé. Donc indirectement, le mouvement social n'est pas forcément aussi fort qu'il peut l'être habituellement.
Si le texte est adopté, c'est un scénario qui n'est pas complètement exclu encore, par 49-3, est-ce que vous pensez que ça pourrait redonner une nouvelle vigueur au mouvement social ?
Je ne le sais pas, nous verrons ce qu'il en sera. Ce qui est certain, c'est que ça sera un sentiment d'injustice, un sentiment de passage en force. Mais on l'a vu depuis le début. Il y aura une colère, mais la colère, elle est déjà là dans le pays. Elle est là depuis le premier jour. Emmanuel Macron nous avait promis un nouveau quinquennat, un quinquennat d'écoute, d'empathie. Au final, commencer ce quinquennat avec l'ensemble des outils que l'on peut trouver dans la Constitution, qui sont au final le plus brutal pour les Français, pour essayer de faire passer cette réforme.
Le Rassemblement national a-t-il été utile dans le débat sur cette réforme des retraites ? Vos adversaires à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire tous les autres groupes politiques, disent que vous avez été totalement transparent dans le débat.
C'est aux Français d'en juger. Moi, je n'ai pas jugé savoir si nous avons fait le travail attendu, mais ce qui est certain, c'est que l'ensemble des études d'opinion prouve que le Rassemblement national a été vu comme le meilleur opposant à cette réforme des retraites. Toutes les études d'opinion. On a eu un comportement très ferme contre le gouvernement. Nous avons utilisé tous les moyens institutionnels à notre pouvoir, c'est-à-dire la motion référendaire pour obtenir un référendum, le dépôt d'une motion de censure spontanée, mais nous n'avons pas mis le bazar à l'Assemblée nationale parce que nous respectons nos institutions et que surtout nous donnons rendez-vous aux Français pour un moment démocratique si jamais le texte était voté en 2027, puisque nous avons pris l'engagement dès le début en disant si ce texte n'est pas mis en échec. Si malheureusement il passe, nous détricoterons cette réforme, nous reviendrons sur cette réforme en 2027 si les Français nous font confiance.
Merci Thomas Ménager, bonne journée.
Merci à vous.